Ce matin, j'ai prévu de vous parler de trois petits versets de l'épître de Jacques. Trois petits versets de l'épître de Jacques qui se trouvent au premier chapitre. J'ai la voix cassée, donc il faut ça. Au verset 2 jusqu'au verset 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Mais Seigneur, nous te demandons, dans ta grâce, de bien vouloir nous saisir par ton Saint-Esprit, de comprendre ce qui est écrit ici, Seigneur. Nous apprendre à le vivre vraiment profondément. Faire que par moi, que moi je sois le bon canal, Seigneur, pour parler de ces choses à mes frères et sœurs. Amen. Alors, quand il est question d'épreuve, ben d'abord, l'épreuve, c'est un sujet qu'on n'a pas tellement envie de connaître, et pourtant, c'est quelque chose qui est fréquent dans les chrétiennes. On vous donnera les notes. Le mot épreuve, qui était traduit par épreuve ici, correspond à deux mots grecs en fait. Il y a deux mots grecs qui sont utilisés, qui sont traduits par le mot épreuve en français. En anglais par proof ou par trial, qui sont un peu différents mais qui disent la même chose. C'est le test. Le test. Le test de votre foi. N'est-ce pas? La première chose que je voudrais vous dire vis-à-vis de l'épreuve, avant d'aller bien au-delà, il y a une chose essentielle. Et qui est un peu le grand problème de l'épreuve. C'est que dans l'épreuve, il y a le temps. Jamais vous ne pourrez dire j'ai été éprouvé durement pendant 5 minutes. Oui. Dans l'épreuve, il y a toujours. Regardez ces versets que vous trouverez dans les notes qu'on vous distribuera, enfin, qu'on sera diffusés. En sorte que vous ne vous relâchiez point, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Dans la Bible, persévérance et patience, c'est le même mot. Ce qu'on traduit par persévérance et par patience, c'est souvent le même mot. Hébreux 10, 36. Car vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Jacques 5, 11. Vous avez entendu parler de la patience de Job. On va parler de Job. Tout à l'heure, je vais vous parler de Job. Mais vous avez entendu parler de la patience et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. La patience de Job. La persévérance dans l'épreuve. Moi, Jean, Apocalypse 9, votre frère qui est part à la tribulation et au royaume et à la persévérance des saints. En Jésus. L'épreuve, c'est une difficulté qui nous arrive, qui est là pour tester notre foi, et ça se fait dans le temps. Alors, il y a là quelque chose de très étonnant, c'est que l'apôtre Jacques nous dit, regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés. Exposé. Alors, on dit, ben, l'apôtre Jacques nous dit qu'il faut qu'on soit joyeux. Alors, c'est un peu embêtant parce que l'apôtre Pierre nous dit que il comprend très bien qu'on ne le soit pas. Puisque les deux apôtres écrivent à des chrétiens juifs qui sont dans la dispersion, sûrement les mêmes populations d'ailleurs, pas aux mêmes époques. Mais l'apôtre Pierre nous dit, 1 Pierre 1 aussi, à propos de Jésus, il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Alors attendez. Non, cela, ce qui fait votre choix. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, il faut que vous soyez attristés par diverses épreuves. Pour un peu de temps, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus viendra. Donc, si vous regardez, l'un vous dit, il faut que vous soyez joyeux, et l'autre dit, je comprends très bien que vous soyez attristé. Mais c'est parce que les deux ne parlent pas de la même chose. Ce que nous dit l'apôtre Jacques, c'est soyez joyeux spirituellement. Comprenez spirituellement que l'épreuve est quelque chose de bon pour vous. C'est ça que l'apôtre Jacques dit. Et l'apôtre Pierre dit en même temps, une épreuve, c'est une épreuve. Hein? Si une épreuve n'est pas douloureuse, ce n'est pas une épreuve. Donc bien entendu, on va ressentir dans notre chair, dans notre être, dans notre personne, le poids de l'épreuve. Mais en même temps, et ça c'est ce que dit l'apôtre Pierre, il dit, bien entendu, vous avez ça. Mais l'apôtre Jacques en même temps dit, en même temps, regardez, pour des raisons que je vais vous expliquer plus tard, ceci est source de joie. Donc joie spirituelle en même temps que larmes physiques. Vous voyez, c'est ça que nous disent les deux apôtres. Alors maintenant arrive ce passage extraordinaire où il dit, l'épreuve va former pour vous la patience. Et il dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Qu'est-ce que ça veut dire que la patience accomplisse son œuvre? Quelle est l'œuvre dont il est question? Parce que là, l'apôtre Jacques nous laisse un peu. Il nous dit, il y a une œuvre qui va se faire. Il faut que la patience s'accomplisse, mais quel est le type d'œuvre? Et il y a une façon de voir et de comprendre cela en se reportant à l'épître aux Romains, puisque l'apôtre Paul nous parle dans Romains 5 justement de l'affliction. Et le mot persévérance qu'il utilise dans ce passage est exactement le même mot que patience en grec. Au verset 3 du chapitre 5, après avoir parlé de la joie de notre salut, il dit que nous sommes dans la joie, il dit bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, c'est ce que Jacques dit, il dit réjouissez-vous des afflictions et des souffrances. Il dit, et l'apôtre Jacques dit ça, Paul dit exactement pareil, glorifions-nous des afflictions. Jacques dit réjouissez-vous, Paul, glorifions-nous. Et alors, il commence par la main, sachant que l'affliction produit la persévérance, c'est-à-dire la patience. C'est le même mot en grec, ici. Donc, on dit, ils disent la même chose. Mais l'apôtre Paul nous indique un petit peu quelque chose de plus. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire, l'espérance. On voit que là, on commence à voir ce qu'est l'œuvre dont l'apôtre Jacques nous parle. La victoire dans l'épreuve et après la victoire, l'espérance. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Je vais vous parler de la victoire dans l'épreuve. Qu'est-ce que c'est que la victoire dans l'épreuve? Et pourquoi Dieu envoie-t-il une épreuve? Il faut qu'il y ait victoire dedans. J'aimerais vous donner trois exemples. Je vais essayer de traiter tous les trois. Les deux seconds seront beaucoup plus courts que le premier. C'est Job, Abraham et Joseph. Tous les trois ont connu des épreuves caractérisées dans la Bible. Job, on connaît les épreuves de Job. Je reviendrai dessus. Abraham, vous savez que c'était l'épreuve correspondant à sa descendance. Et Joseph, c'était le fait que il était incarcéré, etc., etc. Qu'il était pendant 13 ans pratiquement, vu qu'il ait vécu une vie misérable pendant véritablement 13 ans, alors qu'il était responsable de rien. Et on va voir comment la foi de ces hommes s'est développée et a fait apparaître ce que sera finalement la victoire dans l'épreuve. Donc d'abord, je commence par Job. Alors, je vous rappelle que Job, ce qui lui arrive, n'est-ce pas, c'est que c'est un homme qui vivait au nord de l'Arabie. il était considéré par tous et par Dieu lui-même comme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. C'est quand même déjà pas mal. Vous voyez ce que... Et c'est Dieu lui-même qui le dit. C'est dit au liminaire du texte, mais Dieu le dit lui-même, dans une conversation qu'il a avec Satan. Et même, Jean, même Dieu ajoute, il n'a pas son équivalent sur la terre. Voilà qui était Job. D'ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'il était sans péché. Le fait qu'il ait été intègre et droit et qu'il craignait Dieu ne voulait pas dire qu'il était sans péché. D'ailleurs, Job le reconnaît. Il va le reconnaître, on ne va pas tout tourner, hein, vous aurez les références. Mais Job 9, 1, 2, il le dit, mais il y a plein d'autres endroits où il le dit, il reconnaît qu'il est pécheur. Ceci étant, je sais qu'il en est ainsi, comment l'homme serait-il juste devant Dieu ? Parce qu'être intègre et droit ne veut pas être juste sans péché, n'est-ce pas ? S'il voulait contester avec lui sur mille choses, il ne pourrait répondre à une seule. Job, il dit, comment est-ce que... Il dit, je n'ai pas de justice. Enfin, je suis un pécheur, il le reconnaît. Seulement, en même temps, il pense... Et cet homme-là, donc, qu'est-ce qui lui arrive ? Il lui arrive des choses épouvantables. Il lui arrive que, dans un premier épisode, il perd ses biens et sa famille, toute sa famille. Et dans un deuxième épisode, il est attaqué dans sa chair. Dans les deux cas, c'est Satan qui le fait. Dieu permet à Satan de le faire en donnant les limites. Dans le deuxième cas, il est attaqué dans sa chair. Il est affecté d'un ulcère malin qui fait qu'il se gratte de la plante du pied en haut de la tête avec un tesson comme ça. Et vous imaginez ce que ça veut dire. Je ne sais pas si vous avez déjà eu, sûrement vous avez déjà eu, surtout pour les plus aînés d'entre nous, des trucs qui vous ont gratté ici, ou comme un genre d'eczéma là, ou etc. À chaque fois que j'ai eu ça, cet an dernier, je me suis toujours dit, Job, c'était partout, sur tout le corps. Sur tout le corps, il a souffert. Et alors, pourquoi ? La question se pose, pourquoi ? Et elle se pose à Job en premier. Elle se pose, pourquoi ? Parce qu'il dit, qu'est-ce que j'ai fait ?
Est-ce que quelqu'un a garé une voiture CH355YY ? Donc c'est pas ici.
Pourquoi est-ce que j'ai fait ? Est-ce que tu pourrais tirer un peu la porte ? Ça éviterait le courant.
Merci.
Parce que j'ai peur de... Là ? Mais j'ai demandé, est-ce que vous m'entendiez pas ?
C'est mieux là.
C'est mieux. Job dit, mais... Il a dit à Dieu, n'est-ce pas ? Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Parce que même si je suis pécheur, ces petites choses ne sont pas grand-chose, ma vie plaide pour moi. Qui je suis plaide pour moi. D'ailleurs, c'est ça qu'il dit, n'est-ce pas ? Job 13.3. Qu'est-ce qu'il dit ? Mais je veux parler au Tout-Puissant. Je veux plaider ma cause devant lui. 15b, dans le même passage, où il dit, mais devant lui, je défendrai ma cause. Verset 23. Quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés ? Fais-moi connaître mes transgressions. Mais moi, je vais plaider mon cas. Et le chapitre le plus extraordinaire, c'est le chapitre 23. Le chapitre 23, si vous voulez, ce n'est pas qu'il soit drôle, c'est qu'il est tellement intense, il est tellement... Moi, j'ai une faiblesse énorme pour ce chapitre 23, quand il dit, chapitre 4, je plaiderai ma cause devant lui. je remplirai ma bouche d'arguments. Je connaîtrai ce qu'il peut avoir à me répondre. Il parle à Dieu, il dit, je vais voir ce que tu vas pouvoir me répondre. Je verrai ce qu'il peut avoir à me dire. Emploierait-il toute sa force pour me combattre? Ne daignerait-il pas au moins m'écouter? Ce serait un homme droit qui plaiderait devant lui. Je serai pour toujours absolument par mon juge. Mais si je vais à l'Orient, il n'y est pas. Je vais à l'Occident, je ne le trouve pas. Est-il occupé au Nord? Je ne puis le voir. Se cache-t-il au Midi? Je ne puis le découvrir. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirais, pur comme l'or. C'est un chapitre extraordinaire, vous voyez, parce que toute l'expression de l'injustice, entre guillemets, que Job ressent, elle est là. Je suis injustement traité par Dieu lui-même. Job, donc, ne comprend pas son infortune. Car son raisonnement s'articule sur une forme de deal. D'ailleurs, c'est sur cette forme de deal que s'était appuyé Satan lui-même. Car quand il était venu voir Dieu, il avait dit « Retire-lui sa famille et tu verras s'il ne te maudit pas en face. » Et ensuite, il avait dit « Ben regarde, on lui touche la peau, tu verras. » Le deal, c'est quoi? Si je fais le bien, alors Dieu nécessairement va me bénir. Il est là le deal. Tous les hommes de l'époque, et Job aussi le pensait, je peux vous le démontrer, mais pas maintenant. Job l'avait toujours pensé aussi. Tous les hommes le pensent naturellement. Si je fais ce qui est bien devant Dieu, Dieu, lui, il va me répondre d'une façon positive en me bénissant. Regardez ce qu'il dit, Job, au chapitre 30, très, très, très intéressant. Non, au chapitre 31. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Écoutez, quelle part Dieu m'aurait-il réservé d'en haut? Si j'avais fait ça, Dieu m'aurait immédiatement réservé le bâton. Quel héritage le Tout-Puissant m'aurait-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant et le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité? La base de la relation de Job et de ses hommes, et il y a les amis aussi, mais je ne vais surtout pas parler des amis, on parle actuellement de Job et de son problème. La base de cette relation qu'on peut avoir avec Dieu sur un mercantilisme n'est pas la base de la relation que Dieu veut qu'on ait avec lui. N'est-ce pas? J'ai beaucoup entendu ma mère, quand j'étais jeune, nous sommes d'origine catholique, et quand il arrivait quelque chose, qui disait « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ?» Tout le monde dit ça. « Qu'est-ce que j'ai bien fait au bon Dieu ?» pour qu'il m'arrive such and such. C'est la base naturelle de l'homme. Vous croyez en Dieu, d'accord. Mais vous allez croire que naturellement, Dieu va voir ce que vous avez fait et va dire, ah, il est quand même bien, je vais. Plac, je vais donner une petite sucette. Ou une Ferrari, ça dépend les âges. Mais non, Dieu ne veut pas. Dieu n'a pas... Notre relation avec Dieu n'est pas basée là-dessus, n'est-ce pas? Notre relation, en tout cas pour nous, elle est basée sur, pour ce qui nous concerne, nous chrétiens. Job, c'est avant, n'est-ce pas? Je ne peux pas tout prêcher sur Job, c'est trop compliqué, ça m'implique trop. Mais pour nous, pour revenir à l'essentiel, pour nous, elle est basée sur l'amour de Dieu. C'est-à-dire que notre relation avec Dieu, elle est basée sur le fait que Dieu t'aime. Quoi qu'il t'arrive. Et parce que ce qui va t'arriver, Dieu sait pourquoi ça t'arrive. Il le sait. C'est lui qui est en contrôle parce qu'il veut te dire quelque chose. Il veut nous dire quelque chose. Quand ce qui nous arrive, et que c'est tellement différent de ce qu'on pouvait attendre, c'est que Dieu dit quelque chose. Alors, pour Job, la première chose que Dieu a voulu lui dire, c'est que la relation n'est pas basée sur le deal. Parce que si elle l'était, le cas de Job serait un cas, une contradiction. Et puis même Job, ensuite, dans le cours de ces conversations, dira, mais j'ai vu beaucoup de méchants qui vivaient très bien jusqu'à la fin de leur vie. Le psaume 73, le psaume d'Asaph, 73, qui le dit si bien. Notre relation avec Dieu n'est pas basée sur un donnant-donnant sur cette terre. Il y aura bien sûr une rétribution des méchants. Ça, c'est sûr. Elle peut venir sur cette terre, mais pas obligatoirement. Elle viendra sûrement à la fin des temps. Il y aura une, parce que Dieu est un Dieu juste. Mais voyez comment, pour un homme comme Job, qui n'était pas un juif, comment pour un homme comme Job, cette affaire de rétribution vous fait tout de suite déboucher sur l'idée qu'il y a une éternité. Car s'il n'y a pas d'éternité, il y a une injustice profonde de Dieu. Or, comme il a vu que tout un tas d'hommes pouvaient être méchants, sans pour autant être punis sur cette terre, ça veut dire qu'ils le seront un jour. Mais quand ? Après. Voyez donc, immédiatement, Dieu est en train... Voyez comment Dieu, petit à petit, construit une connaissance à partir d'une réflexion. Mais il y a d'autres choses que Dieu avait voulu donner à Job. Ah oui, encore un mot sur le mercantilisme. Vous voyez, l'aspect mercantile qui consiste à dire, mais puisque Dieu, puisque j'ai fait ceci et ceci, Dieu quand même pourrait faire ceci et cela pour moi. Ce qu'on a vu tout à l'heure au chapitre 23, ben c'est là sous mes yeux. Je plaiderai ma cause devant lui. Et je connaîtrai ce qu'il peut avoir à dire. Ce qui est extraordinaire. Parce que vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que ce mercantilisme place Dieu à la hauteur de l'homme. Quand vous voulez faire une discussion de donnant-donnant avec Dieu, vous vous rendez compte que vous faites... Ça veut dire que Dieu et vous, vous êtes sur le même plan. D'une part, cette discussion, cette vision mercantile, notre vie chrétienne, qu'est-ce que j'ai bien vu au bon Dieu, pourquoi est-ce que Dieu ne me donne pas ceci, cela. D'une part, elle est complètement fausse parce qu'elle est basée sur autre chose qu'une relation d'amour qui est celle que Dieu veut monter entre nous. Mais en plus, elle est empreinte d'une folie de mettre Dieu à le niveau de l'homme. Maintenant, il y a d'autres choses que Dieu a voulu montrer à Job. Job, qui était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, n'était quand même pas un saint non plus. Il n'était pas par exemple, par rapport à la pauvreté en esprit, c'était quand même pas un spécialiste absolu de cette béatitude. D'ailleurs, quand j'ai fait des exposés sur le livre de Job, quand je fais des exposés sur le livre de Job, je dis ceci. Vous lisez le chapitre 1, le chapitre 2. Ensuite, vous allez lire le chapitre 29 et le chapitre 31. Ensuite, éventuellement, vous lisez le chapitre 30 et vous continuez le chapitre 3. Pour avoir cerné des éléments de la personnalité de Job, avant même de commencer le chapitre 3. Voyez. Parce que c'est au chapitre 29 et 31 que vous voyez sa personnalité. Mais au chapitre 29, il parle de lui. Et il dit quelle a été sa... Au chapitre 29, il parle de lui en tant qu'homme ayant servi ses concitoyens. Au chapitre 31, il parle de lui en tant qu'homme ayant fui le péché. D'ailleurs, si j'ai oublié de le dire, je voudrais vous dire une chose. Le chapitre 21, le chapitre 31... Donc je vous ai dit qu'il était un peu basé sur le fait que Job veut se détourner du mal pour éviter d'avoir de mauvaises choses qui tombent sur le nez. Il nous décrit un homme qui lutte contre le péché et un homme qui a une vie contre le péché qui est admirable. Admirable. nous autres hommes et même femmes, nous devrions méditer le chapitre 31, voir comment elle s'est positionnée dans toute sa vie sociale pour honorer Dieu. Bon, je reviens. Je me disais, ce n'était pas véritablement un homme qui avait pratiqué la pauvreté en esprit. Quand il parle de lui-même par rapport à sa vie sociale, il dit ici au verset 14, c'est mal traduit dans le second. Hein, je me revêtais de la justice, je me revêtais de la justice et elle me servait de vêtements. Ce n'est pas particulièrement pauvre en esprit, ça. Vous voyez, c'est pas, on n'est pas dans l'humilité absolue. Au verset 20, qu'est-ce qu'il dit ? Attendez, j'ai aussi noté. Ah oui, au verset 20. Tenez-vous bien, ma gloire reverdira sans cesse et mon arc rajeunira dans ma main. Ma gloire reverdira sans cesse. Très sincèrement, j'ai, même pour un homme comme Michael, je n'ai jamais entendu dire ça. Ma gloire reverdira sans cesse. Verset 25. J'aimais aller vers eux parce qu'ils étaient compassionnés. Et je m'asseyais à leur tête. J'étais comme un roi au milieu d'une troupe, comme un consolateur auprès des affligés. Donc, vous voyez, en même temps qu'il y a ce service magnifique qu'il a fait pour les pauvres, pour les veuves et les gens qui, les orphelins, ceux qui n'avaient rien, en même temps, il en a tiré une gloire. Il a tiré la gloire de son œuvre. Et quand vous... C'est quand même extraordinaire. Mais la justice de Dieu, toute cette justice, s'est consumée dans ses discours. D'ailleurs, c'est pourquoi Dieu, au chapitre 38, lui dit, quand vous regardez très très bien ce que Jésus, que Dieu dit à Job au chapitre 38, il lui dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Dieu lui dit, écoute, qu'est-ce que tu me racontes, Jean ? Qu'est-ce que cette épreuve a permis de faire ? Elle a permis de révéler ce que Job pensait profondément. Mais ce n'est pas extraordinaire. D'accord ? Il a manqué d'humilité. Aussi, regardez ce qu'il dit de ces... Maintenant qu'il est vraiment à terre... Au chapitre 30, il dit « Maintenant, je suis la risée du plus jeune que moi. » Et voyez la suite. « De ceux dont je dédaignais de mettre les pères au milieu des chiens de mon troupeau. » Vous voyez que c'était pas... Job, c'était quand même quelqu'un de... C'était quelqu'un qui avait quand même un caractère fort, affirmé, et une certaine... Comment dire... Un certain manque d'humilité, ça c'est clair. Quand vous dites de quelqu'un, ton père est même pas capable, n'aurait jamais été capable de faire partie des chiens de mon troupeau. Vous voyez que ça jette une ombre. C'était les problèmes de Job. Pourquoi est-ce qu'il a connu cette épreuve, Job ? Parce que Dieu a voulu lui montrer tout ça. Vous voyez ce que je veux dire ? En ces matières, pauvreté en esprit, humilité, Dieu a utilisé les amis de Job aussi. Donc ça, je n'ai pas parlé. Qui ont été un peu un réflecteur de lui-même par rapport à lui. Parce que eux, ils ont reflété ce qu'il était. Ils ont été le reflet de lui. Toutefois, par rapport aux amis de Job, Job était un homme plein de compassion et de bienveillance, ce qui n'était pas le cas des amis. Ainsi peut-on dire à propos de Job que s'il était proche de certaines des béatitudes, comme heureux ceux qui ont faim et soif de justice, heureux ceux qui sont miséricordieux, il était ça. Par rapport aux certaines autres, il n'était pas proche du tout. Voyez-vous. Et en fait, qu'en est-il de nous ? Je vous pose la question au milieu, n'est-ce pas? Est-ce que vous dites, vous, moi je suis proche de telle et telle béatitude, mais pas de telle autre? Moi je connaissais des gens qui disaient, moi je suis prêt à la justice. D'ailleurs, je suis dans une église où on est absolument parfaitement biblique et on est proche, nous, de tout ce qui est la justice impeccable. Alors que l'église, c'est l'église de Dieu, c'est l'église de Christ, qu'elle doit sans cesse se renouveler dans l'enthousiasme et la joie. Oui, on ne peut jamais se dire qu'on est content de nous. Même l'Église peut s'opposer de sa question de savoir quelle est sa proximité par rapport à la volonté de Dieu. On doit être... Regardez l'Église d'Éphèse. Tout était parfait dans l'Église d'Éphèse. Et pourtant, Jésus dit, il te manque ton premier amour. Mais tout était parfait. Alors comment se fait-il que Jésus dit, il te manque ton premier amour, alors que nous savons que l'amour, c'est d'obéir au commandement de Dieu. Or, l'Église d'Éphèse semble avoir obéi au commandement de Dieu. Comment est-ce que Jésus dit « Tu as oublié mon premier amour ?» Qu'est-ce que c'est le premier amour ? Rappelez-vous, pour vous qui avez été amoureux, et pour vous qui ne l'êtes pas encore, je vous dis que c'est ça. C'est « Oh ! Oh ! Mais qu'est-ce qu'elle est gentille !» Enfin, moi, je suis un homme, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle est mignonne? Qu'est-ce que je l'aime? Est-ce que vous voulez la connaître? Je vais vous la faire connaître. Ma fiancée, qui est tellement bien, est tellement extraordinaire. C'est ça, le premier amour. Et quand on a perdu le premier amour vis-à-vis de Jésus, c'est qu'on n'a plus ça. Or, quand on s'est converti, on l'avait. Rappelez-vous quand vous êtes converti, moi je me rappelle très bien, on avait le premier amour. Puis tout d'un coup, on le perd, le premier amour. Et l'Église, elle a son premier amour quand elle est jeune. Quand elle grandit, elle perd son premier amour. Elle ne va plus dire, faire l'évangélisation, faire ce qu'elle doit faire. Voyez, on peut être parfait dans beaucoup de choses, comme Job, et être pas du tout ce qu'il faut dans tout un tas d'autres choses. Or, le Seigneur veut qu'on soit complet. Eh bien, Job, il avait des trucs sur lesquels ça n'allait pas. Et Dieu a voulu lui dire...
S'il y a une personne qui s'est garée sur le long du trottoir, elle est en train de bloquer un bus avec des personnes à l'intérieur. Si la personne se trouve ici, je vais lui demander de venir déplacer son véhicule. Merci beaucoup.
Merci, monsieur. Mais tu as demandé déjà, hein? D'accord. Je finis avec Job. Finalement, en rendant... Il y a une chose que Job a fait aussi, et que Dieu va devoir lui faire remarquer. Il lui fait remarquer, je vous montre comment. C'est qu'en rendant Dieu responsable de ses souffrances, il a accusé Dieu. Celui qui était responsable des souffrances de Job, c'était Satan, je vous rappelle. C'est vraiment ce qui est écrit. Et lui, il a dit, il m'envoie ses flèches, il me torture. Il faut voir le texte. C'était Satan qui le faisait. Et Dieu a été obligé de lui dire, de lui faire remarquer, quand il lui a présenté les animaux à la fin, qu'il y a le Léviathan aussi. Le Léviathan qui est là, qui intervient, qui agit sur cette terre. Voyez-vous, ah oui, ne disons-nous pas quelquefois nous-mêmes, Dieu m'a envoyé quelque chose, une souffrance. Dieu m'a envoyé. Je crois qu'on va aller, on dit des choses qui sont fausses, c'est pas Dieu. Ça peut être Satan. Il faut pas accuser Dieu, on peut pas accuser Dieu. Et si Dieu nous fait passer par une épreuve, c'est qu'il y a une raison. Il veut nous montrer quelque chose de nous, en nous. En plus, dans nos réactions par rapport à l'épreuve, il veut montrer ce qui est dans le fond de notre cœur. D'ailleurs, ça aussi, il l'a montré à Job. Par les réactions que Job a eues, ce qui s'est passé, c'est que le fond du cœur de Job est arrivé. Et ce n'était pas le fond du cœur qu'on attendait. Donc, voyez, l'épreuve était nécessaire pour Job, qui, dans la patience, en sort victorieux. Alors, est-ce qu'il sort victorieux? Oui. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est beau. Oui. Tout ce que je vous ai décrit, c'était l'épreuve qui était nécessaire pour Job en tant que Job. Maintenant, Job était quelqu'un de supérieur. C'était aussi un homme de Dieu exceptionnel. C'est qu'il a compris que, à travers ou dans l'épreuve, il y avait une sortie. Et c'est ça que Dieu veut pour nous. Il veut qu'on sache qu'il y a une sortie. Quelle est la sortie? On ne sait pas toujours. Mais il veut qu'on sache qu'il y a une sortie qui est en dehors du contexte de notre petit monde ou de notre petite vie. D'accord? Et il veut donc, Dieu veut qu'on comprenne qu'il y a une sortie. Et là, c'est ce que Job dit en Job, chapitre 19. Et alors là, prenez-le, parce que ça, c'est magnifique. Et il dit ceci. Mais je sais, quoi qu'il arrive. Alors, et là, il a une vision, comme une révélation, que Dieu lui accorde. Vous voyez? On sort du livre de... Quand on lit ça, on n'est plus dans le livre de Job. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et qu'il se lèvera à la fin sur la terre. Quand ma peau sera détruite, écoutez-moi bien, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu. C'est magnifique, c'est à pleurer de joie, ça. Vous voyez ? Je le verrai. Il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Oui, c'est ça. C'est ça la victoire dans l'épreuve. Elle est là. Elle est, la victoire dans l'épreuve, elle est au milieu de l'épreuve, de voir Dieu. Pour lui, le Rédempteur et le chemin qu'il a pour lui. Elle est là. Dans l'épreuve. Et l'espérance est mélangée dedans. Bon, je vais aller rapidement pour Abraham et pour Joseph. Pour Abraham, un deuxième exemple. Je ne ferai pas Joseph parce que je suis trop tard là. Abraham, un deuxième exemple. Abraham attend toute sa vie. Il attend un fils. D'accord ? Il attend un fils. Dieu lui promet. Mais il ne voit rien venir. Et un jour, Dieu lui l'amène et voit les étoiles du ciel et lui dit, regarde, ta descendance sera comme ces étoiles. Et qu'est-ce qui est écrit ? Genèse chapitre 15, verset 6, un des grands, grands versets de l'Ancien Testament. Abraham crut à Dieu qui le lui imputa à justice. C'est-à-dire qu'il mit sa justice. La justice de Dieu est venue sur Abraham. À cause de ce moment de foi. Et là, vous voyez, là, c'est la victoire dans l'épreuve. La victoire dans l'épreuve, c'est de voir, c'est de croire que Dieu lui a dit qu'il aura... Il ne le voit pas encore, mais c'est de croire. Et l'espérance. Et alors, ça induit l'espérance. Vous savez très bien que l'espérance, elle a un petit peu... elle a un petit peu... bafouillée un peu. Parce qu'après le chapitre 15, comme dans toutes vos Bibles, il y a le chapitre 16. Et dans le chapitre 16, il y a Ismaël. Donc, il a un petit peu été au-delà de ce qui était... Il a mis sa main dans le plan de Dieu. Ça n'empêche pas l'acte de foi phénoménal. Et l'espérance. L'espérance là où elle culmine en Abraham. Et bon, c'est à pleurer de magnificence. Quand il est en train clairement d'égorger son fils, de croire encore qu'il va le retrouver. Hébreux 11 nous le dit. Ça, c'est ça. Ça, si ça, c'est pas l'espérance, expliquez-moi ce que c'est. L'espérance, c'est l'assurance. L'espérance, c'est l'assurance que Dieu va lui redonner son fils et il le retrouvera comme à travers une résurrection, nous dit l'auteur. C'est par la foi qu'Abraham offrit son fils. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit en Isaac, tu auras ta postérité par ton nom. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Vous voyez, c'est absolument magnifique. Là, vous avez dans Abraham la victoire dans l'épreuve qui se déclenche dans une espérance qui, au moment d'une autre épreuve, dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, je vais passer Joseph. Dieu parle. Dieu veut parler. Il parle d'une manière, il parle d'une autre. Je vais vous donner un exemple personnel qui n'est pas un des grands exemples, mais certains d'entre vous savent que je dors très mal, que je dors très mal depuis 40 ans, que je me lève, que je marche, je suis somnambule, je tombe, je me prends dans les portes, etc., etc. J'ai des nuits épouvantables. Et c'est une épreuve qui dure depuis des années. Je mange dans une pomme, une orange, je suis avec un couteau. Jamais je suis tombé avec un couteau. Jamais. Je suis tombé la tête par derrière, des trucs, enfin des choses que vous n'imaginez pas. Je fais des choses bizarres. Et un jour, ma femme a retrouvé une chaussure dans le frigo. Enfin, tout un tas de choses étranges. Des fois, le matin, elle dit, mais oui, quelle telle chose. Et c'est que je l'ai placée pendant la nuit. Alors là, je ne savais pas où c'est, quoi. On le retrouve 3 jours après. Mais je voudrais vous raconter une petite histoire. Je n'écoute jamais la radio pendant la nuit. Je ne mets jamais la radio. Mais moi, je suis très amateur de musique classique. Mais je ne mets jamais la radio. Et une nuit, et il y a parmi tous les morceaux de musique classique, un particulier que j'aime par-dessus tout. Et c'est ce qu'on appelle le Benedictus de la messe en ré de Beethoven, dont le chant en latin dit exactement ce qui est dit au moment de l'entrée de Jésus à Jérusalem, béni soit Benedictus in nomine Domini, au nom du Seigneur, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, etc. Dans l'entrée de Jésus, c'est le texte, mais en latin. Et Jésus, là, dans ce morceau de musique, il est représenté par un violon. Donc il y a un chœur qui chante le Benedictus, et il y a un violon. Et ce thème du violon, c'est le thème de Christ. Et c'est de Beethoven. Et pour moi, il n'y a rien de meilleur que ça. Une nuit, j'ai appuyé sur le bouton, ce que je ne fais jamais. Et j'ai eu ça. J'ai compris que le Seigneur me disait, tu vois, je te regarde. Tu n'es pas tout seul. Quand tu te balades la nuit, je suis là. Il m'a dit ça. Dieu nous parle. Il veut nous parler. Et dans l'épreuve, il nous parle. Par exemple, je vous dis, dans l'épreuve, il nous parle. Vous qui dormez, il ne peut pas vous dire ce qu'il m'a dit. Moi, il m'a dit ça. Mais vous, quand vous dormez, il ne peut pas vous dire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Chacun, à travers l'épreuve, Dieu lui dit quelque chose. Dieu s'entretient avec lui. Regardez ces passages. Élihu lui dit quelque chose là. Et puis j'ai fini bientôt, ne vous inquiétez pas. Bon, vous le lirez peut-être, parce que peut-être que je vais tomber. Dieu parle au chapitre 33. Et il dit, d'une manière ou d'une autre, tantôt, et l'on n'y point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis dans leur couche, alors il leur donne un avertissement, il met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal, afin de garantir son âme de la fausse. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand la lutte continue, vient d'agiter ses os, alors il prend un dégoût, alors cet homme prend en dégoût le pain, même les aliments les plus exquis. Sa chair se consume, il disparaît, et ses os qu'on ne voyait pas sont mis à nu. Son âme s'approche de la fosse, sa vie des messagers de la mort. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les mille, qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, alors Dieu dit, ait compassion de lui. Et il dit à cet ange, délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. Ceci, c'est magnifique, c'est chapitre 33. Et cet ange, c'est une... Comment est-ce que je peux vous dire ? J'ai trouvé une rançon. C'est une anticipation de Christ. L'ange intercesseur d'Aliu, c'est une anticipation de Christ, celui qui intercède. Qui est l'intercesseur pour nous ? Vous connaissez un autre intercesseur que Christ ? Et Dieu dit, j'ai trouvé un rançon. Donc là, bien sûr, il s'agit du livre de Job, on est 2000 ans avant Christ. Il ne parle pas de Christ, mais c'est une anticipation. Ainsi, je veux vous dire, l'œuvre de la patience, c'est la victoire. La victoire, c'est l'affirmation de l'amour de Dieu dans l'épreuve. Et la victoire, elle est dans l'épreuve. Et c'est l'espérance qui est portée par cette victoire et qui nous montre comment Dieu, qui nous montre qu'on doit espérer que Dieu bientôt nous sortira de cette épreuve. La victoire, elle porte, elle nous induit l'espérance. Parce qu'une fois qu'on a eu mis toute notre foi en Dieu, notre espérance, elle vient naturellement. Et comme a dit l'apôtre Paul après, et l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu est répandu en nous par le Saint-Esprit. En effet, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous voyez, vous avez le lien là. Vous savez le lien. Lisez votre Bible, mes frères. Il n'y a rien de mieux que de lire sa Bible. Hein ? La conclusion que je voulais vous donner, c'est ceci. Ainsi, puisque nous avons un grand sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, Christ, Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme